La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes réunis pour une émission qui, j'espère, vous intéressera sur l'intelligence artificielle et le maintien à domicile. Et pour ce faire, on a trois personnes qui sont compétentes dans le domaine, avec d'une part le professeur Aurélie Berthaud, qui est directrice du CIAD, qui est un laboratoire de l'Université de Bourgogne Europe, qu'elle vous présentera. D'autre part, on a le professeur Davy Laroche, qui lui est aussi professeur à l'Université de Bourgogne Europe, responsable du département de rééducation. Et puis le docteur Imad Sfer, qui est donc le président du réseau Reseda, mais qui est également le directeur médical et innovation en santé pour le groupe Vive. Donc vraiment, merci beaucoup à tous les trois d'avoir passé une partie de votre temps pour venir nous informer sur ce que peut apporter l'intelligence artificielle, dont aujourd'hui on parle beaucoup, sinon tous les jours, dans des domaines extrêmement variés, mais où souvent le domaine de la santé est abordé sous un angle qui n'est peut-être pas très pratique, et il m'a semblé que notre auditorat serait intéressé de vous entendre pour voir comment l'intelligence artificielle, ou du moins ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, peut être impliquée dans le maintien à domicile, qui est une autre problématique qui intéresse beaucoup nos concitoyens, dans la mesure où c'est ce qu'ils souhaitent lorsqu'ils vieillissent ou lorsqu'ils sont malheureusement atteints par un déficit, plutôt que d'être dans une institution spécialisée. Donc, merci beaucoup. Et est-ce que l'une ou l'autre souhaite ajouter quelque chose à la présentation très sommaire que j'ai faite? Non, Aurélie? Le CIAD peut-être, Aurélie, c'est quoi le CIAD?
Ah, le CIAD, c'est un laboratoire de recherche de l'Université de Bourgogne et de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, puisqu'il est situé à la fois sur Dijon, Belfort et Montbéliard. Et donc, notre métier à nous, c'est d'inventer les nouvelles IA qui arriveront sur le marché dans les 10 ou 15 ans prochains.
Et David Laroche, quelque chose à ajouter?
Bonjour à tous, merci Jean-Pierre pour cette invitation. Donc oui, en effet, moi je suis donc professeur à l'Université de Bourgogne-Europe. Donc je dirige un département qui vient tout juste d'être créé à l'université, hein, qui veut faciliter la formation des métiers paramédicaux de la rééducation. Et en ce sens, on a tout un pan de formation autour de l'intelligence artificielle qui va être à faire.
Très bien. Et Imad, tu souhaites ajouter quelque chose?
Au niveau de Vive 3 Bourgogne, il y a un département, on va dire, qui est sous ma direction, qui travaille sur l'innovation en santé. Et l'idée, c'est de pouvoir tester, mais aussi proposer aux personnes qu'on accompagne des innovations qui puissent
mise en application pratique,
les maintenir à domicile ou dans...
Très bien.
Dans des établissements type EHPAD.
Très bien, donc vous êtes tous les trois parfaitement compétents pour répondre à la thématique qu'on s'est proposé de traiter aujourd'hui. Alors peut-être la première question, mais je la poserai plus volontiers à Aurélie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les sens. On parle d'une intelligence artificielle analytique, d'une intelligence artificielle générative. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourriez nous dire de façon plus précise qu'est-ce qu'on entend par là qu'intelligence artificielle?
À l'heure actuelle, quand on ouvre la radio ou la télé, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout des LLM, tous les ChatGPT, Gemini.
Alors LLM, c'est quoi?
Les larges modèles de langage.
D'accord.
Donc des IA qui sont génératives de texte, essentiellement, et qui peuvent être étendues pour la génération d'images ou ce genre de choses. Donc à l'heure actuelle, quand on dit IA, tout le monde parle essentiellement de ces IA-là. Maintenant, c'est extrêmement réducteur, puisque réellement, les IA, elles ont été inventées en 1947. Donc, ça date il y a très, très longtemps. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, puisque il y a eu des époques où on s'est mis à sortir des films qui font peur, hein, Terminator et compagnie. Donc, l'IA n'avait plus le vent en poupe. On s'est rabattu sur des termes comme machine learning, data science ou ce genre de choses. Et donc, la vague est revenue. Et là, on parle à nouveau d'IA. Mais c'est au-delà de ces IA génératives, on a énormément d'autres IA qui existent. Mais
Je crois même que le terme d'intelligence vous heurte un peu. Vous aimez mieux parler, dire qu'il s'agit plutôt d'une instruction que d'une intelligence.
Oui, tout à fait. En fait,
vous essayez de développer ça?
Ben, ces IA, en fait, sont formées à partir de textes qu'on va lui fournir, hein, par tous les bouquins qu'on peut trouver sur toutes les étagères de toutes les bibliothèques, ce genre de choses. Et ces IA sont programmées pour déduire, à partir des mots qui ont déjà été énoncés, quel est statistiquement le mot prochain à fournir. Et ça, ça ne dépend que d'une chose, c'est-à-dire de tout ce qu'elle a avalé préalablement. Donc elle a été instruite.
C'est ça.
Avec des textes, avec des résultats à obtenir, et elle ne fait que répondre à cette instruction-là.
Sa grande
en fait.
Compétence, c'est de pouvoir traiter un grand nombre d'informations
c'est ça.
Dans un délai extrêmement rapide, beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait le faire,
oui.
Mais pas avec notre intelligence, c'est-à-dire pas avec la possibilité d'avoir des prospectives, d'avoir une prise en compte des environnements, d'avoir une certaine pondération dans l'analyse des différentes données.
Oui, quand un LLM commence sa phrase, il ne sait pas du tout comment elle va finir.
D'accord.
En fait, c'est exactement comme quand vous prenez votre téléphone et que vous envoyez un SMS. Vous commencez à taper un mot, il vous en propose trois. Faites l'expérience, vous appuyez tout le temps sur le mot du milieu, par exemple, il va construire une phrase que vous avez l'habitude de rédiger parce que c'est quelque chose qui est naturel chez vous. Et donc, par défaut, votre téléphone vous propose les mots que vous avez l'habitude d'enchaîner. Mais là, c'est exactement la même chose, sauf que bon, au lieu d'être fait à l'échelle de vos propres discussions SMS, c'est fait à l'échelle des livres qui se trouvent sur la planète. Mais ce n'est rien de plus. Elle prédit le mot d'après.
D'accord. Alors, on peut comprendre quand même, d'après cette présentation, qu'il y a des craintes vis-à-vis de l'information ainsi produite par l'IA. Des craintes. Alors, je vais peut-être me tourner vers Imatsphere en imaginant qu'il y a une crainte du public que l'IA remplace des personnes, remplace des fonctions, prenne la place de. Est-ce que cette crainte est justifiée ou comment on peut l'appréhender?
En tout cas, oui, sûrement la crainte est justifiée, mais on voit bien que chez les soignants, cette crainte est très, très prédominante. Pas que, hein, d'ailleurs, hein, puisque effectivement, on parle demain de robots qui pourront accomplir certaines tâches à la place des soignants, mais aussi on peut parler demain des voitures autonomes qui pourront remplacer des chauffeurs de taxi, mais aussi des ambulanciers, etc. Donc on voit bien que il y a une crainte par justement l'automatisation de certaines tâches. Il y en a certains d'autres qui voient ça plutôt d'un angle positif, puisque ça permet, l'IA va permettre de, ou permet déjà, hein, puisqu'elle existe aujourd'hui, de simplifier ou travailler à la place d'eux pour certaines tâches, je dirais, rébarbatives ou complexes. Mais certains d'autres personnes voient ça comme effectivement la peur de demain de les remplacer, effectivement.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que plutôt que de remplacer, l'IA va permettre de collaborer avec la personne? C'est-à-dire que ce ne sont pas des outils qui vont remplacer une personne, mais au contraire qui vont l'aider. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut
rajouter? C'est le but, hein, bien évidemment, du moment où on met en place un cadre réglementaire et éthique dès le début. On conçoit des outils en cadrant dès le début leurs activités et les limites à ne pas dépasser.
Alors, compte tenu de cette première crainte, il y en a une autre qui apparaît, c'est que la machine, l'intelligence artificielle, analyse de façon très machinale, entre guillemets, les informations, alors que la personne les analyse avec son émotion, avec son comportement, avec ses habitudes. Est-ce qu'il y a une crainte de voir la déshumanisation intervenir à travers la machine?
Oui, ça c'est effectivement, c'est aussi une autre crainte, en sachant que la machine répond de façon suite à un algorithme, et forcément il peut y avoir des biais quand on introduit des données avec un algorithme qui va amener une solution qui peut être biaisée, effectivement, par les données qu'on intègre. D'ailleurs, il y a des craintes au niveau discriminatoire, hein, si on introduit un biais par l'humain hein, dans ces données, de sélection, par exemple pour les recrutements. Hein, on peut imaginer des recrutements sur des bases discriminatoires, donc forcément, il y a une crainte au niveau du recrutement, hein, par exemple. Et il y a d'autres biais du fait que c'est l'humain qui introduit les données. Ça, c'est une crainte qui est justifiée, hein, d'où l'importance d'être très vigilant sur la transparence des données qu'on intègre dans un logiciel. Hein,
effectivement. Et l'information qui est donnée à l'utilisateur qui lui permet d'éviter cette crainte, en le rassurant quelque part.
Tout à fait. Et puis l'importance aussi, encore une fois, d'avoir des règles éthiques et juridiques et de protection des données aussi, hein, puisque ça c'est encore une autre crainte. Quand on introduit des données, qu'est-ce que ces données vont devenir et est-ce que on peut les pirater facilement ou pas pour justement introduire un autre biais par l'intermédiaire d'une cyberattaque, par exemple.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une crainte à ajouter à celle-là qui est orientée vers une inégalité sociale, c'est-à-dire que certains disposeraient de matériel, IA, et qui leur apporterait un confort, qui leur apporterait des conditions de vie de meilleure qualité, alors que d'autres ne pourraient pas le faire. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ce côté d'inégalité sociale? Quelqu'un veut répondre, là, Aurélie, la voix qui opine du chef, mais plutôt négativement.
Non, enfin... Pour l'instant, il y a IA et IA. Si on parle IA en termes de LLM et donc ChatGPT et compagnie, là, n'importe quel navigateur sur n'importe quel téléphone peut donner un accès à ces éléments-là. Et donc, c'est disponible pour tous. Évidemment, quand on a moyen d'acheter un abonnement, on aura des réponses plus poussées. Mais l'accès de base est ouvert à tous, en fait. Mais je crois que David n'est pas tout à fait d'accord avec moi.
Alors, David.
Alors, certes, oui, l'accès est ouvert pour tout le monde. Je suis assez d'accord avec ça. L'utilisation n'est pas. L'utilisation qu'on en fait n'est pas du tout ouverte à tout le monde. Et je pense que...
Par défaut de compétences, défaut d'apprentissage.
Je pense que l'utilisation de l'IA, c'est comme n'importe quel nouvel outil. Il faut qu'on forme les gens à l'utiliser de façon correcte. Et il y a des gens qui savent autour de cette table déjà très bien utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a une égalité sociale qui peut se créer au même titre que tous les outils, qui fait que des gens vont être très bien formés à l'utiliser et savoir l'utiliser à des moments appropriés, et d'autres qui vont connaître l'outil sans savoir l'utiliser. Et on peut créer un déséquilibre à ce niveau-là.
Donc là, on peut en retenir le fait qu'il est très important d'avoir une éducation à l'utilisation des matériels et qu'à ce jour... on n'a pas le sentiment qu'il y ait tellement d'efforts qui soient faits dans l'éducation des personnes quant à l'utilisation de l'IA. Je me trompe?
Alors, pour travailler un peu avec des étudiants, hein, de plus en plus, on voit que les étudiants sont quand même largement appropriés à hein, ces techniques d'intelligence artificielle.
On est obligé on parle du maintien à domicile, c'est-à-dire souvent des personnes âgées.
Et ben, justement, je pense que les étudiants s'approprient cette IA pour quand ils sont en cours. S'approprient mal, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent mal. Donc, je pense qu'il y a une vraie nécessité d'aller... former les étudiants à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que si on veut qu'ils l'utilisent plus tard dans leur métier d'assistance, il faut qu'ils puissent avoir une vision correcte de l'utilisation de ces algorithmes.
Alors, Imad, qui a l'expérience d'utilisation d'un certain nombre de matériaux type robot à domicile, est-ce qu'il y a effectivement une éducation qui a été faite? Est-ce qu'elle est facile à faire? Est-ce qu'elle est acceptée?
Alors, en tout cas, c'est indispensable de former et les soignants, mais aussi les aidants hein, et les patients à ces différents types d'outils. Sinon, ils vont pas avoir la nécessité de le faire. Et il faut dire aussi qu'il y a aussi un problème de financement de ces outils par les pouvoirs publics, sans parler des robots, mais toutes les applications beaucoup plus simples qu'un robot à domicile en matière de téléassistance, télésurveillance, ça reste quand même tributaire des financements ou des remboursements de certains outils à domicile. Ce qui peut créer effectivement un problème je dirais, de différence entre celui qui peut se les payer et les autres usagers qui n'ont pas les moyens. D'où l'importance d'impliquer les pouvoirs publics dans le financement de certains outils intéressants, hein, bien évidemment, ils ne vont pas tout financer, mais il y a certains outils que nous avons, qui se généralisent, mais qui sont limités pour certains utilisateurs par manque de financement.
Avec comme conséquence le fait de bien instruire les pouvoirs publics, de ne pas être constamment axé et focalisé sur la dépense, mais devant également tenir compte des bénéfices secondairement obtenus qui peuvent intervenir en tant que facteur économique.
Bien sûr.
Bon, alors peut-être une dernière chose en ce qui concerne la définition de l'IA, parce que de temps en temps, les gens ont un petit peu peur quand ils voient, en particulier un Américain célèbre, qui met des puces au niveau cérébral, enfin des puces entre guillemets, puisque c'est pas vraiment des puces. Est-ce que vraiment l'intelligence artificielle va être une intelligence supplémentaire qui pourrait permettre d'élaborer un homme, avec un grand H, augmenté? Qu'est-ce que vous avez à propos de cette crainte? Est-ce que c'est moi qui me fais peur tout seul, ou bien c'est une réalité et qui peut même déboucher sur l'imagination d'avoir une manipulation de masse à partir du moment où on peut implanter des systèmes et qui permettent à un certain nombre de personnes établies en réseau de raisonner d'une certaine façon et pas d'une autre? Est-ce que je me fais des idées?
Alors, ce serait techniquement faisable, puisqu'on sait qu'il y a certaines opérations qui ont été faites pour résoudre certains problèmes de santé et qui fonctionnent. Donc ce sont des choses qui commencent à se faire. Et techniquement, on estime que oui, pourquoi pas, à partir du moment où les gens ont des puces dans la tête, on peut communiquer avec ces puces-là. Après, il y a plusieurs points. C'est quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'un soin, c'est une chose. Ou quelqu'un qui est totalement sain. Après, c'est lui qui fait ses choix. Je veux dire, personne ne l'obligera à porter une puce cérébrale. Voilà. Donc, ce sera à chacun de décider de voir
enfin,
sa porte.
Espérons-le. et je vois que Davy lève le doigt. Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est juste un commentaire. J'ai eu la chance d'assister à une conférence à Paris d'un grand psychiatre qui se posait la question justement de cette implantation profonde du cerveau avec ces puces. Hein. De certains Américains, comme vous dites. La vision de dire on va contrôler l'humain à partir de puces dans le cerveau, elle est très liée à notre vision de l'informatique, qui fait que en contrôlant un port USB, on contrôle l'ordinateur. Mais heureusement pour nous, le cerveau humain, il ne marche pas avec un port USB. Et c'est pas parce qu'on en connecte un morceau qu'on va pouvoir dialoguer avec tout le reste. Et donc, je pense qu'il y a des grandes limites techniques aujourd'hui qui peuvent complètement empêcher ce genre
très bien,
de danger.
Ça, c'est un peu rassurant.
Oui, alors, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau. Donc, on ne peut pas, à partir d'un ordinateur, le piloter à distance. On ne comprend pas comment il fonctionne complètement. Donc, on peut éventuellement, avec une puce, reconnecter deux parties qui ne le seraient plus. Mais faire plus, ça voudrait dire déjà vraiment être capable de communiquer au point de vue, envoyer les signaux qui soient de la même catégorie, au bon endroit, au bon moment, avec le bon rythme. Enfin, pour l'instant, on ne sait même pas comment ça marche. Donc, avant qu'on puisse piloter des gens à distance ou leur instiller des idées ou ce genre de choses, franchement, on n'y est
donc,
pas.
Donc, soyons optimistes et un peu rassurés. Et on va rentrer alors dans la deuxième partie de notre entretien et qui concerne vraiment l'application pratique, c'est-à-dire en quoi l'intelligence artificielle et ses diverses applications peuvent faciliter le maintien à domicile. On peut imaginer que l'intelligence artificielle peut intervenir directement au niveau de la personne, au niveau des aidants, au niveau de l'environnement, au niveau du mobilier, au niveau des transports, etc. Est-ce qu'on peut essayer de voir ça? Alors, on peut peut-être procéder un peu par ordre, parce que je vous ai dit là, c'est un petit peu un ensemble brouillon. Et dans un premier temps, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme professionnel, que l'IA puisse apporter à la personne elle-même pour le maintien à domicile?
Déjà, on est sur un nouveau virage, là, avec les nouvelles IA qui arrivent. Il faut déjà laisser le temps à tout le monde de se les approprier et de les utiliser pour fournir d'autres outils. On voit commencer à apparaître les avatars et ce genre de choses, c'est-à-dire des personnages qui vont avoir une apparence humaine avec qui on peut converser ou ce genre de choses. Donc déjà, ça peut peut-être être plus facile pour accéder à Internet ou pour tuer le temps, ne serait-ce que ça,
avec,
pour discuter.
Donc sortir la personne de son isolement.
Oui. Oui, oui, avec ces nouveaux outils qui arrivent, et ils vont de plus en plus se démocratiser, les gens vont les utiliser de plus en plus simplement, et il va y avoir pléthore de nouveaux outils qui vont être disponibles pour pas cher, en fait. Et donc, ça va, un peu comme on télécharge une application sur son téléphone, on va pouvoir utiliser ces nouveaux outils bientôt très aisément. Donc des choses qui peuvent favoriser peut-être la communication, comme quand vous dites hey Siri, diffuse-moi cette musique, ça pourrait tout à fait être de converser avec une personne à distance sous forme plus ou moins d'hologramme ou ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent tout à fait arriver rapidement maintenant.
Donc, ce qui veut dire que dans un premier temps, on peut retenir comme parfaitement réaliste le fait que certains dispositifs utilisant l'intelligence artificielle vont permettre à la personne de ne plus être aussi isolée.
Oui.
Et ce qui va être donc déjà une amélioration considérable au niveau du bien-être quant au maintien à domicile. Et ça, c'est donc réaliste.
Tout à fait. Et puis, il y a tous les outils qui existent. Par exemple, votre robot aspirateur, mine de rien, l'IA qui l'embarque avec ses capteurs LIDAR pour pouvoir faire le tour des meubles et puis passer l'aspirateur partout. Enfin, c'est une grosse aide aussi au quotidien. Donc, il peut y avoir plein de développements de petits outils comme ça qui favorisent le quotidien des personnes.
Alors, si c'est donc réaliste, actuellement, il semble que ce ne soit pas trop tellement développé. Est-ce que c'est un problème de marché, parce qu'il y a un marché qui est pas reconnu par les industriels et qui ne se lance pas dans cette voie-là?
Oh ben, la réadaptation n'est pas forcément le produit phare soutenu par les industriels et la fonction publique ou ce genre de...
Malheureusement, là, je souscris, voilà. Compte tenu de ma profession.
Donc, du coup, tant que les industriels ne verront pas une grosse part de marché et des bénéfices, ils investiront moins.
Et comment on peut faire, alors, pour susciter ça?
Bonne question.
Informer. Une émission comme aujourd'hui, déjà, permet d'avoir une information, j'espère, au niveau d'un certain nombre de décideurs.
Avec ces nouveaux outils qui vont se développer, je pense que il y aura de plus en plus d'applications de communication ou d'échanges qui vont aussi se développer et qui, même sans marché, vont commencer à s'installer. Et puis, il est à espérer que les industriels finiront par se rendre compte qu'ils vieillissent aussi et qu'ils voudront rester chez eux.
Oui, pourquoi pas? On imagine ça. Alors, quand même, il y a un additif à cette première intervention. Est-ce que les vrais besoins de la personne, quand elle est à domicile, vont pouvoir être mieux appréhendés, mieux définis avec l'intelligence artificielle? Parce qu'on peut utiliser, on peut imaginer que le maintien à domicile va être difficile pour certains ou certaines parce que leurs vrais besoins n'ont pas été reconnus. Et ces vrais besoins qui tiennent lieu à ce que j'ai plaisir à appeler la capacité, c'est-à-dire être capable de faire en vraie grandeur, alors qu'au contraire, la capacité, c'est la possibilité de faire, mais en théorie. Et il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Et est-ce que ce marché ne s'est pas développé parce que, précisément, on n'a pas pris conscience qu'il fallait appliquer le matériel à des conditions de vie particulières, personnalisées?
Je pense que ça dépend des besoins. Et des besoins, il y en a tellement qu'il faudrait les voir déjà au cas par cas.
Alors, est-ce que, tout à l'heure, vous parliez d'avatar, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une possibilité d'analyser le lieu de vie pour en faire en quelque sorte un jumeau numérique, de telle façon que ce jumeau numérique puisse être mis en rapport, mis en communication avec les possibilités réelles du patient, et voir si dans ces conditions, effectivement, lorsqu'il rentre chez lui, il aura des lieux qui seront adaptés à sa vraie capacité.
Alors ça, c'est techniquement possible, mais pour le ramener à chaque personne qui en aurait potentiellement besoin, ça représente un budget. Et je ne suis pas sûre que la Sécu soit partante pour financer ce budget-là pour chaque personne.
Oui, mais là encore, il faudrait qu'il y ait un changement dans le mode de fonctionnement du système de santé, qu'il ne soit pas sans cesse orienté vers les dépenses, mais qu'il prenne en compte les bénéfices secondaires qu'on peut tirer de l'utilisation de tel ou tel type d'appareil. Et ça, on a chacune d'entre nous une responsabilité dans ce domaine pour faire comprendre à ceux qui élaborent les systèmes de santé qu'ils ne doivent pas être forcément vus en termes de dépenses. Et alors, je vais me tourner vers IMAT, qui, lui, a déjà des dispositifs qui ont été implantés sur place. Est-ce que, d'une part, ça marche? Et d'autre part, est-ce que ce problème de dépenses commence à être pris en compte par les systèmes de soins ou par les structures, comme VIV, par exemple?
Alors, sans parler effectivement des robots assistants ou des choses qui ont un coût assez important, on peut parler de tous les objets connectés. Hein, alors, effectivement, tout n'est pas disponible avec le smartphone parce que ça nécessite qu'on ait un minimum d'objets connectés. On peut imaginer aujourd'hui des choses, un frigo connecté. Une balance connectée, un semainier de le médicament hein, donc connecté qui renseigne mais aussi des capteurs hein, des capteurs de tension, des capteurs de fréquence cardiaque, etc. C'est plus quelque chose d'imaginaire mais qui existe. Effectivement, ça nécessite une évaluation auparavant des besoins, puisque ça a un coût. Donc, il existe aujourd'hui des soignants qui évaluent les besoins à domicile et qui équipent, à juste titre, les usagers à domicile de capteurs ou des objets connectés et qui vont envoyer des informations aux professionnels de santé qui vont décrypter et suivre l'état de santé.
Et alors, est-ce qu'il y a eu des évaluations faites a posteriori démontrant qu'il y a eu, en effet, des résultats positifs, voire même des économies?
Bien sûr, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les établissements de santé ou une hospitalisation, ça coûte très cher, mais aussi un séjour en EHPAD, ça coûte très cher. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le souhait des usagers, des seniors, c'est de rester à domicile. Donc ça n'a pas de prix non plus. Donc,
Non seulement l'hospitalisation coûte très cher, mais ce qui aussi coûte très cher, c'est la réhospitalisation.
Bien sûr.
C'est-à-dire une fois la personne retournant à ses domiciles, si la capacité de vivre sur place n'a pas été bien appréciée avant la sortie, il risque d'y avoir des réhospitalisations précoces et qui, elles, vont coûter très cher. Et qui, en plus, vont intervenir à fracas sur le bien-être.
Oui, donc ça a été démontré que le fait de rester à domicile, en dehors de la qualité de vie qui est très importante, mais aussi le coût n'est pas le même entre le domicile et une hospitalisation ou un séjour en EHPAD, hein, qu'il soit temporaire ou permanent, bien évidemment. Donc, c'est pour cette raison, je pense que les pouvoirs publics ont tout intérêt. D'ailleurs, ils ont bien compris, hein, ils commencent, que ça soit la sécurité sociale, mais aussi les mutuelles, hein, ils commencent à rembourser certains dispositifs à domicile, notamment des capteurs, hein, pour assurer la télésurveillance et la téléassistance. Et ça, c'est aidé par l'IA. Pourquoi ? L'intelligence artificielle va analyser plus facilement les données qu'elle reçoit donc du domicile, des capteurs, etc. Et qu'elle va permettre d'alerter plus facilement les professionnels qui viendront ou bien agir, enfin proposer des solutions ou des thérapeutiques à domicile, pas que les médecins, hein, ça peut être des paramédicaux, etc., et dans le but de garder au maximum la personne dans son environnement
de vie.
Voilà, exactement.
Alors, il y a deux questions qui me viennent, là. Une première que je poserai peut-être à David, correspondant aux objets connectés. La grande difficulté, me semble-t-il, c'est que ces objets connectés posent des problèmes d'interopérabilité. Ils ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Le service après-vente, on est de temps en temps un peu surpris. Il y a des appareils connectés qui sont décrits comme répondant à certains besoins alors qu'ils ne les couvrent pas, alors que ce sont des fausses informations. Donc ça, c'est une première question que je poserai à David. Puis alors une seconde peut-être que je poserai à Aurélie, c'est de dire, mais est-ce qu'effectivement on peut avoir, par l'intelligence artificielle, des signaux collectés à domicile qui permettent éventuellement de devenir des signaux d'alerte en disant attention, il se passe quelque chose et il va falloir intervenir. Alors, première question, puis je laisse le temps à Aurélie de réfléchir à la réponse possible. Alors, Davy, les objets connectés, l'interopérabilité et tous les problèmes que ça pose en ce qui concerne le marché, les services après-vente, etc.
Alors, les objets connectés, oui, c'est une grande, grande famille. Il faut dissocier deux types d'objets connectés. Hein. Les objets connectés grand public, qu'on peut tous avoir sur nous un peu partout.
Qu'on a peut-être même.
Que j'ai même sur moi. Hein. Et puis des objets connectés qui vont être dits dispositifs médicaux. C'est pas du tout les mêmes classes d'objets. Donc le grand public, si on part sur ces objets grand public, il y a des gros problèmes d'interopérabilité. Je dirais même que c'est pas le plus grave, c'est peut-être même pas l'interopérabilité, c'est peut-être même la confidentialité des données que qu'on leur donne à ces objets-là. Parce que on sait pas où, on a tous une belle analyse hein, sur nos smartphones des données connectées qu'on a sur nos montres. Le problème, c'est que pour être traité, il faut que ça soit envoyé sur des serveurs, on sait pas trop où, et puis pour revenir et nous informer sur ce qu'on a fait. Puis après, il y a une autre question, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données qu'on collecte? Donc ça, c'est les objets grand public, des problèmes de sécurité qui sont aujourd'hui là. Et c'est pas des objets qu'on utilisera pour un suivi médical de toute façon parce qu'ils ont pas de label. Donc aujourd'hui, il y a quand même des labels hein, sur les dispositifs connectés, donc les dispositifs médicaux connectés qui sont labellisés, qui doivent. Nous, on a travaillé à un certain nombre d'objets connectés comme ça qui permettent d'avoir des canaux hein, de conversation directe avec eux sans passer par des serveurs. On ne sait pas trop où, et qui permettent de rapatrier des données brutes, parce que ce qu'on cherche, c'est des données brutes.
Est-ce qu'il y a des recherches scientifiquement valables qui ont été entreprises dans ce domaine-là et qui permettent de démontrer, premièrement, l'efficacité, de mettre en évidence un certain nombre de risques et ce qu'il faut pour les pallier? Est-ce que la recherche s'est suffisamment développée dans ce domaine ou est-ce qu'il faut inciter à ce qu'elle se développe?
Alors, il faut bien évidemment inciter à ce qu'on développe de la recherche sur ces prises en charge connectées à distance. Il y a un certain nombre de startups, hein, même françaises, hein, qui fournissent maintenant de la télé-réadaptation. Donc, c'est validé et on peut en faire à distance. C'est-à-dire qu'on peut se rééduquer chez soi maintenant sans passer par l'hôpital. Ils fournissent un certain nombre d'objets connectés, ces startups, et ça marche assez bien.
Donc, des perspectives qui ne sont pas complètement utopiques.
Les perspectives sont même plutôt favorables, je dirais, avec vraiment des startups françaises. Donc, faut faire un cocorico quand même. Qui permettent de rééduquer les gens chez eux. Donc on a vraiment un maintien à domicile de rééducation. Donc ça c'est très intéressant, avec des objets connectés. Maintenant il va falloir passer un cran au-dessus, et puis analyser toutes les données issues de ces capteurs de façon correcte, pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus de haute dimension que juste se dire que la fréquence cardiaque n'est pas bonne. Quoi.
Alors on en vient à la deuxième question que je voulais poser à Aurélie. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut imaginer une modélisation qui permette, avec les différentes données recueillies sur place, chez le patient, est-ce qu'on a la possibilité de définir des signaux d'alerte qui sont non pas préventifs, mais prédictifs? C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement prévenir, mais on va dire attention, il risque de se passer quelque chose. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une réalité?
Non, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Hein. Il suffit, entre guillemets, fournir un certain nombre de règles. Par exemple, si le praticien dit « Ok, les choses arrivent comme ça ou comme ça, et bien à ce moment-là, on a besoin d'être alerté, le patient a besoin d'être alerté, son service médical a besoin d'être alerté, ou ses aidants, ou peu importe. » Donc, avec la constitution de ce genre de règles, une IA peut tout à fait voir dans quel cas le patient et dans la situation ou tend vers cette situation, puisque les outils de prédiction, enfin maintenant, sont des choses qui sont banales, hein, complètement en IA. Donc on peut tout à fait prédire les situations à risque, de manière plus ou moins précise toujours, mais suffisamment pour émettre des alertes, que ce soit auprès des patients directement. Des fois ça suffit, en disant attention, t'avais un programme, t'es en train de décrocher, remotive-toi, ou auprès du médecin, où le patient évolue très bien dans sa prise en charge, il gagne du temps, il faudrait peut-être avancer son rendez-vous médical parce qu'il n'a pas besoin de stagner comme ça, il faut qu'il aille plus vite, ou au niveau des aidants, pour essayer de intervenir physiquement ou psychologiquement auprès de la personne pour l'aider. Oui, donc ça, c'est tout à fait faisable.
Je me permettrais peut-être de citer que vous avez eu dans votre laboratoire, le CIAD, Thomas Roy, qui a travaillé sur ce sujet-là, et avec un article qui vient d'être publié, et avec une publication qui est accessible par Internet, et on pourra peut-être, avec la station, donner la référence, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Oui, tout à fait. Les travaux qui ont été publiés sont des travaux qui envisagent de repenser le système de santé différemment pour stocker les données du patient en étant centré sur le patient. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le patient service par service, on regarde le patient dans l'intégralité de ce qu'il a comme histoire médicale, de ce qu'il a comme besoin de réadaptation, de manière à les interconnecter les uns aux autres pour être le plus efficace possible et surtout ne plus cloisonner les besoins de réadaptation pour que tout soit bien intégré en intégrant également la pharmacie, en intégrant le médecin, les aidants, les soignants, de manière à ce que tout le monde ait sa place autour du patient dans le système d'information de l'hôpital et du suivi du patient.
Et là, Aurélie, vous me faites très plaisir, parce que ça veut dire que dans un système de soins idéal comme celui-là, on ne sera plus focalisé sur la maladie, mais plutôt sur celui ou celle qui l'a subi.
Oui, mais alors là, par contre, il va y avoir un gros, gros travail à faire dans tous les hôpitaux.
C'est un changement de paradigme qui va être difficile à obtenir. Mais on y va, du moins j'espère.
Mais disons que cet article a l'avantage de présenter la faisabilité de l'approche.
Donc, on a largement parlé alors de l'importance que peut avoir l'IA pour l'aide à la personne. Est-ce que, de la même façon, on peut imaginer que l'IA intervienne en tant qu'aide à l'aidant lui-même ? Que ce soit un aidant professionnel ou un aidant naturel. Imad, peut-être, pourrait nous parler de ça.
Oui, moi j'imagine bien l'aide directe ou indirecte sur l'aidant, puisque si l'IA ou les outils connectés intégrant l'IA facilitent le maintien à domicile et facilitent la vie du patient, forcément, elle va faciliter indirectement la vie de l'aidant, puisque en absence de ces outils-là, c'est l'aidant qui va devoir accomplir les tâches pour aider le patient dans sa vie de tous les jours. Donc, notamment aussi la possibilité aussi de l'aidant. On voit bien que souvent il manque de répit. Et pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas laisser pendant un certain temps le patient, notamment pour les malades lourdement handicapés, aussi ceux qui sont atteints de maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Si on peut confier à l'IA certaines surveillances, mais aussi certaines communications à distance, ça permet à l'aidant de pouvoir sortir un petit peu pendant un petit laps de temps, de faire ses courses, etc., tout en étant connecté à travers ces outils-là avec le patient. Et donc, ça permet à l'aidant de souffler.
Et y compris peut-être quant à la manipulation de la personne, parce qu'on imagine des personnes qui ont une mobilité qui est réduite, qui ont du mal à se mobiliser. Et la Covid a suscité un certain nombre de recherches des industriels pour avoir des cobots, c'est-à-dire non pas des robots, mais avoir des appareils de collaboration qui permettent d'aider à la manipulation des personnes. Et on a vu arriver un certain nombre de, on va dire, des orthèses robotisées, pour utiliser un mot peut-être un peu pédant, mais des qui sont simplement des systèmes de brelage motorisés qui permettent d'aider pour soulever les patients. Est-ce que ça se répand ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que ça marche ?
Oui, les exosquelettes existent déjà, que ce soit pour les soignants, mais aussi pour les aidants. Hein,
puisque, et qui sont commercialisés.
Et ça permet aux soignants de soulever un poids qu'ils ne sont pas capables de soulever à l'état, je dirais, naturel, ou prendre un risque pour le dos, pour les tendons, etc. Donc ça, effectivement, la période Covid a beaucoup favorisé l'arrivée de ces outils-là.
Est-ce qu'il y en a en pratique qui sont utilisés ? Est-ce que c'est connu ? Est-ce que c'est d'un accès facile ? Est-ce que la mobilisation de la machine elle-même est commode ? La manipulation est commode ? Il y a des exemples qu'on peut éventuellement citer ?
Bah, ce qui se généralise et ce qui commence à être un petit peu à disposition, c'est les exosquelettes, comme j'ai pu le dire. Ce sont des outils qu'on peut utiliser pour porter des charges lourdes, etc.
C'est très cher ?
Ça reste quand même, oui, c'est pas non plus accessible à tout le monde, mais pour les professionnels, c'est quelque chose qui commence à être accessible, puisque malgré
non seulement au bien-être de la personne, mais également au bien-être de l'aidant.
De l'aidant, et puis des professionnels de santé. Hein,
et qui pourraient éviter des lombalgies,
exactement.
Qui elles aussi coûtent très cher.
Qui coûtent très cher et qui obligent parfois d'hospitaliser la personne à domicile, puisque par manque d'aidants et par manque de professionnels. Donc forcément, c'est sûr, il ne faut pas voir le prix qui peut paraître exorbitant, mais il faut voir tout ce que ça peut éviter aussi en termes
des économies possibles.
Des économies, et puis de la qualité de vie du patient. Hein.
Et Davy, est-ce que vous avez, dans le cadre du laboratoire que vous dirigez, eu des contacts avec des industriels intéressés par ce type de matériel de Kobo?
Alors, on a eu des contacts avec des industriels et ça n'a pas été beaucoup plus loin, malheureusement. Ce n'est pas du tout de leur faute, hein, bien évidemment. On avait commencé à travailler notamment sur les activités de nursing pour manipuler les gens et puis permettre les toilettes, par exemple, sur des choses assez simples. Hein. Et finalement, autant les exosquelettes vont peut-être permettre de lever, donc toutes ces techniques qui sont assez simples, mais sur des manipulations qui sont un peu plus complexes, on se rend compte rapidement de la limite de la technologie, ce qui fait que les industriels étaient intéressés, hein, mais évidemment, pour aider le système de santé, on avait des industriels qui étaient très intéressés pour travailler avec nous. Malheureusement, techniquement parlant, ça devait être assez complexe, et que je pense que le coût de revient ensuite des matériels, qui fait que le coût de développement, le coût de revient, et puis finalement, est-ce que le marché est suffisant? Je ne suis pas sûr que le marché soit là.
Alors,
pour ce type de dispositif.
Dans votre laboratoire, il y a une opération dite de tiers-lieu qui a été développée, où vous avez la possibilité de conduire des recherches avec des industriels qui produiraient des matériels de ce type et qui seraient intéressés par leur évaluation. Je me trompe ou est-ce que...
Alors, tout à fait. Donc, au CHU, on a eu la chance d'être lauréat d'un appel à projet qui est piloté par France 2030, qui s'appelle tiers-lieu d'expérimentation. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'innovation des entreprises et puis de chercheurs pour aller vers l'innovation en les aidant à les mettre en relation avec les structures appropriées, à la fois académiques, hein, à l'Université de Bourgogne-Europe ou dans les services hospitaliers, pour pouvoir développer leur innovation. On fait ça en partenariat, évidemment, hein, entre l'Université de Bourgogne-Europe, Santénov, France Asso Santé, qui est une association d'usagers, et le CHU de Dijon, qui est le porteur. Et l'objectif de ce tiers-lieu, c'est de faciliter l'innovation. Donc, typiquement, ce genre d'innovation, si on a quelqu'un qui nous écoute et qui désire aller vers cette innovation-là, on sera ravis de l'accueillir au guichet unique du CHU pour entreprendre avec lui.
C'est un dispositif original sur le plan national.
Alors, c'est un des seuls tiers-lieux national qui va vers la réadaptation et la santé numérique. Ouais.
Et c'est à Dijon. Ah bah voilà, très bien. Et alors, peut-être en finir maintenant avec la partie IA et aide, non plus à la personne, non plus à l'aidant, mais à la construction, à l'élaboration de l'environnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une intelligence artificielle qui va se développer pour que, avant même que le logement ne soit construit, pour les logements neufs, on est pensé à les rendre, entre guillemets, capacitants. Qui souhaite répondre à cette question? Je vois que Imad hoche la tête.
C'est vrai que de plus en plus de bailleurs sociaux étudient un petit peu ou travaillent avec des ingénieurs, mais aussi avec des médecins, des spécialistes de l'IA, pour pas que, hein, l'IA n'est pas forcément le seul environnement qui doit être conçu, mais c'est l'environnement d'hébergement qui doit être conçu dès le début pour s'adapter à la perte d'autonomie du patient, que de vouloir changer l'habitat à chaque fois qu'il y a un handicap qui se rajoute, etc.
Oui, donc, et puis des dépenses.
Des dépenses, exactement. Donc l'idée, c'est de concevoir un habitat qui s'adapte au fur et à mesure de la perte d'autonomie, qu'elle soit
c'est-à-dire
physique,
qu'il soit modulable.
Modulable, voilà. Mais pour ça, il faut le concevoir dès le début. Et c'est plus facile, même si ça a un coût, mais ça peut être amorti par le maintien à domicile le plus longtemps possible du patient.
Alors, je pense que les architectes seraient sûrement très intéressés par ça, puisque maintenant s'est développée l'idée d'une architecture salutogénique, c'est-à-dire une architecture qui facilite la capacité avec des espaces vraiment capacitants. On a vu toute une série de choses très positives que l'IA pourrait apporter. On n'a pas l'impression que ça a démarré vraiment. Comment on peut faire pour essayer de faire en sorte que cet apport de l'IA qui est très bénéfique soit de plus en plus développé, de manière à ce que le maintien à domicile ne soit pas simplement un mot, mais que ce soit une réalité. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et quel est le message qu'on peut transmettre à certains de nos auditeurs?
C'est compliqué, parce que je pense qu'il y a autant de solutions que de besoins. Et donc, il faut réussir à trouver la bonne solution pour le bon besoin, et que ce soit suffisamment... qu'on puisse produire suffisamment d'exemplaires, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir rentrer dans les frais de l'innovation qui vont avec. Donc c'est compliqué, mais je pense que morceau par morceau, un peu comme ça s'est fait avec la domotique, les choses peuvent s'être appropriées par les gens, qu'ils soient en besoin ou pas. Je veux dire, par exemple, les volets roulants qui remontent tout seuls dès qu'on appuie sur un bouton, ok, ça peut être utile pour quelqu'un qui a des problèmes avec la motricité de ses bras, mais au final, c'est accepté par tout le monde juste par simple fainéantise.
Voilà. Ça me rappelle tout à fait l'histoire de la zapette que nous possédons tous ou toutes. Initialement, c'est un matériel qui avait été prévu pour les personnes handicapées neurologiques et qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à leur téléviseur et qui travaillaient avec donc une télécommande. Et aujourd'hui, qui ne se sert pas d'une zapette dans sa maison? Donc on voit bien que là, initialement, le marché était extrêmement étroit, et puis que finalement, il est devenu très large, puisque tout le monde l'utilise. Donc je conçois bien que s'il y a une solution qui est adaptée à chacun ou chacune, il n'empêche que si la société est convaincue de l'intérêt qu'il y a là-dedans, on peut arriver à ouvrir un marché.
Oui, et puis le meilleur des marchés, c'est celui qui favorise la fainéantise de l'homme.
Ça, c'est vrai.
Mais, clairement.
C'est vrai, c'est vrai. La nature a prévu l'économie, comme pour la marche. On a une vitesse de marche, qu'on dit la vitesse confortable de marche, qui est celle où on dépense le moins d'énergie. Si on va un petit peu moins vite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on dépense plus d'énergie. Et au contraire, si on veut courir un petit peu plus vite, là aussi, on en dépense plus. Mais la nature a prévu que le mieux, bah, c'était une certaine vitesse confortable. C'est là où on dépense le moins. Donc la nature est économe. Et quant aux autres vœux qu'on pourrait faire pour essayer de développer cette idée que l'IA peut apporter quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan de la recherche, par exemple? Parce qu'on voit qu'il y a des domaines de recherche qui sont théoriquement très fructueux, mais relativement peu souvent mis en route, dans la mesure où, par exemple, dans les services hospitaliers, on est très orienté vers des recherches orientées vers la maladie, mais pas trop sur des recherches orientées vers le malade. Est-ce que vous trouvez, David, cette perversité, quelque part, au niveau des structures hospitalières?
Alors, la recherche organique, oui, c'est très fort hein, dans l'hôpital, ça, c'est une réalité. L'avantage de l'intelligence artificielle dans la recherche, c'est que ça nous permet, à partir de maintenant, de traiter des données multi-échelles. Et je pense que ça va être un changement de paradigme aussi, puisqu'on va pouvoir englober...
multi-échelle.
Aujourd'hui, quand on fait de la recherche clinique sur vous, on va regarder si le traitement marche ou s'il ne marche pas, sur un paramètre très simple qui va être est-ce que vous vous sentez mieux, par exemple, est-ce que votre qualité de vie a augmenté. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre de multiples données. On va prendre vos données de radio, vos données de biologie, vos données de fonction, vos données de chez vous, vos données d'actimétrie quand vous serez à la maison, vos données, et un nombre de données qui va être complètement multiple pour essayer de voir si Bah, ce que vous faites, ça marche mieux de façon générale. Donc, on va rentrer dans la notion de capacité et de capacité grâce à ces données multi-échelles. Et ça va nous permettre d'améliorer normalement la vie des gens. Et j'espère qu'au niveau de la recherche, on va se servir de ces algorithmes d'intelligence artificielle pour traiter tout ça. Bon, c'est des projets de recherche hein, qu'on essaye de monter, notamment avec les mêlant les jumeaux numériques avec tout ça, pour pouvoir laisser les gens à domicile avec tous ces ensembles de thématiques. On va pouvoir avoir plein de données qui viennent de plein de sources différentes, les emmagasiner, et puis traiter les gens le plus longtemps possible chez eux.
Et IMAD, au niveau de l'innovation, est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui est en voie de démarrage, ou qui est déjà démarré, mais qui de toute façon doit être promis un brillant avenir ?
Oui, je pense que les tiers-lieux d'innovation et d'autres initiatives de piloter des projets innovants sur des situations où prendre le patient dans sa globalité, c'est ce genre de projet, c'est ce qui va nous permettre effectivement d'être plutôt dans la prévention et le maintien de l'autonomie que traiter des patients une fois la pathologie est installée et une fois la décompensation est là. Et donc l'intérêt de piloter de ce type de projet, c'est d'associer des universitaires, mais aussi des usagers ou des organismes de qui pilotent des activités sanitaires et médico-sociales, hein, pourquoi pas la mutualité, enfin Vive 3 Bourgogne, avec des industriels, mais également des financeurs publics et privés, pour justement travailler sur ce type de projet avec un objectif de favoriser le maintien à domicile, mais aussi la prévention. Travailler sur la prévention, c'est pas toujours dans la culture latine, hein, mais justement, l'idée, c'est d'être un peu plus dans la prévention que dans le traitement. Et on voit bien les limites du système thérapeutique.
Avec un point de mire non seulement sur l'usager, mais on pourrait dire du citoyen en général, puisqu'on peut facilement imaginer qu'un jour, le citoyen devra devenir un usager et que c'est à son service. Aurélie ?
On interroge aussi sur ce que l'IA peut faire pour les patients à leur domicile ou ce genre de choses, mais on a aussi, moi je regarde du point de vue de l'IA, puisque mon métier c'est de concevoir des IA, c'est également le bénéfice que les IA en tirent. Parce que un patient qui est chez lui va nous donner des données vraies. Un patient qui est à l'hôpital, concrètement il est suivi 2 heures dans la journée hein, et puis le reste du temps il vit sa vie, et pendant ces 2 heures là il peut faire l'effort quand il va faire un test, je sais pas, de marche sur tapis, ce genre de choses, il va faire l'effort d'essayer de bien faire, il va nous donner des données biaisées en fait par rapport à ce qui va être dans sa vraie vie, alors que le patient qui est chez lui, au moins les données sont captées par des remontées de capteurs hein, qui sont des données vraies dans ses conditions de vie réel. Et là, on va avoir des données qui sont beaucoup plus fiables et qui permettent d'obtenir des algorithmes qui sont beaucoup plus fiables. Alors que le patient à l'hôpital, eh ben, ça va permettre d'entraîner des algorithmes qui donneront de moins bons résultats à terme, puisqu'ils sont entraînés, comme je disais tout à l'heure, ils seront instruits à partir de choses qui sont fausses.
Donc, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas se limiter à la mesure, l'évaluation des capacités fonctionnelles, qui sont des données de laboratoire, mais plutôt s'orienter vers des données de capacité, qui sont des données de vécu à domicile, dans la vraie vie. Voilà une conclusion possible. Est-ce que ça vous conviendrait ?
Très bien.
Bon, bah écoutez, merci encore d'avoir passé du temps avec nous pour ça. Et chères auditrices, chers auditeurs, on vous mettra sur Internet des références qui peuvent vous intéresser. Et j'espère que cette émission vous aura produit un peu d'espoir.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.